L'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Thomas Vider.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
Ce soir, nous célébrons la République.
Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. Yes, we can.
L'atelier du pouvoir.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vider, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel atelier du pouvoir, l'émission qui vous parle de politique autrement, chaque samedi de 12h45 à 13h30 sur France Culture. La politique vue de ses coulisses à travers ses institutions, ses figures, mais aussi son histoire et ses références. Alors en cet automne très politique, dont le point d'orgue va être la primaire organisée par les Républicains les 20 et 27 novembre, il nous semblait nécessaire de sonder l'imaginaire de la droite française, au-delà des programmes et des propositions des différents candidats, sonder cet imaginaire pour nous interroger sur la place qu'occupe aujourd'hui la figure tutélaire du général de Gaulle dans les références de la droite. On se souvient de la célèbre formule d'André Malraux, « Tout le monde a été, est ou sera gaulliste ». Alors qu'en est-il aujourd'hui ? C'est la question que nous posons, mon cher Vincent.
Dans une bataille des primaires qui bat son plein, le gaullisme est à droite à la fois partout et nulle part. Partout parce que tous s'en réclament, y compris en dehors des Républicains, de François Bayrou à Florian Philippot, du centre à l'extrême droite, en passant même par Nadine Morano, qui avait scandalisé en reprenant une citation détournée de son sens du général sur la race blanche, on s'en souvient. Objet de tous les commerces politiques, de toutes les récupérations, le gaullisme est également étrangement totalement absent de ces primaires. Nul candidat ne se réclame de son héritage ou prétend suivre ses préceptes, reprendre ses idées. Hormis peut-être Henri Guénaud qui revendique cette filiation, mais il n'est pas candidat aux primaires, aucun des challengers du scrutin de novembre ne porte aujourd'hui ses principes. Cette présence fantomatique du général de Gaulle ne date pas d'hier. La droite s'est longtemps déchirée sur la question de l'héritage, qui fut déjà en son temps au centre de l'opposition entre Jacques Chaban-Delmas et Jacques Chirac au début des années 70, l'un reprochant à l'autre de trahir l'esprit gaulliste. Sur le libéralisme, sur la souveraineté nationale, sur le sens de l'État, sur l'esprit humaniste qui doit orienter une politique et sur une certaine idée de la France universelle, généreuse et indépendante, que reste-t-il du gaullisme à droite ? Devrait-on abandonner cette référence devenue désuète après tout ? Un tel legs n'est-il pas devenu trop encombrant pour qui souhaite inventer une modernité politique à droite ? Alors que la primaire approche et que le débat d'idées demeure pour l'instant limité entre des candidats dont on a du mal à comprendre et à distinguer les différences en dehors des petites phrases et des provocations, ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui avec nos invités dans ce nouvel atelier du pouvoir consacré à la droite et à l'héritage gaulliste.
Nos invités, tout d'abord Roger Karoutchi, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, un de ceux qui se revendiquent encore très explicitement du gaullisme dans son parti. En 2012, Roger Karoutchi avait créé un rassemblement gaulliste et évidemment à l'époque il avait lancé ce mouvement un 18 juin. À vos côtés, Roger Karoutchi, Florence Hegel, professeur de sciences politiques à Sciences Po, toute nouvelle directrice de son centre d'études européennes, auteur notamment d'une étude consacrée aux transformations de l'UMP et intitulée « Les droites en fusion » parue en 2012 aux presses de Sciences Po. Et puis au téléphone avec nous, Andrew Knapp, professeur émérite à l'université de Reading, spécialiste des bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas pour ça que nous allons discuter avec lui aujourd'hui. S'il est avec nous, c'est parce qu'il est aussi spécialiste de la droite française contemporaine et auteur d'un livre important intitulé « Le gaullisme après De Gaulle » paru aux éditions du Seuil en 1998.
Le gaullisme, c'est l'histoire, oui. C'est un élément, un événement de l'histoire permanente de la France. Et à cet égard, c'est un phénomène qui caractérise la France tout entière et qui, par conséquent, ne peut pas être appréhendé ou revendiqué par telle ou telle formation politique. C'est l'héritage de l'ensemble des Français. Et par conséquent, il n'y a pas d'héritier du général de Gaulle. C'est-à-dire que le seul héritier du général de Gaulle, c'est le peuple de France tout entier. Et je crois que personne ne peut, à cet égard, revendiquer une priorité quelconque. Il peut y avoir en revanche des disciples du général de Gaulle. Et dans le mouvement gaulliste, dans le Rassemblement pour la République, se trouve, je dirais, la quasi-totalité, ou en tous les cas l'immense majorité des gaullistes, ce qui donne à ce mouvement une justification lorsqu'il prétend être un mouvement gaulliste.
C'était Jacques Chirac, il était l'invité de l'émission Par l'éclair sur France Inter en juin 1980, à l'orée de sa première campagne présidentielle. Bonjour Roger Carucci.
Bonjour.
Vous avez bien connu Jacques Chirac déjà à cette époque, puisque vous étiez l'un des animateurs des jeunes RPR. À l'époque, c'était il y a 35 ans. Je rappelais que vous aviez créé un rassemblement gaulliste au sein de l'UMP il y a de cela 4 ans. Jacques Chirac dit il n'y a pas d'héritier au gaullisme. C'est ce que vous avez fait pourtant. Ça veut dire que certains peuvent s'en réclamer plus que d'autres ?
Non, je n'ai pas de prétention en la matière. Jacques Chirac a raison. Il est évident que l'héritage gaulliste en 2016, il faut l'adapter, il faut le regarder comme étant l'héritage de tous les Français. L'héritage gaulliste aujourd'hui, c'est la Ve République. Ses institutions,
ça c'est un legs institutionnel, d'accord.
Mais c'est probablement le plus important aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'héritage sur les autres sujets, économiques, sociaux, politiques, évidemment que en 2016, 46 ans après la mort du général de Gaulle, près de 60 ans après la création de la Ve République, nous ne sommes plus dans la même situation. Imaginez aujourd'hui vouloir être un gaulliste orthodoxe, défendant des idées gaullistes orthodoxes, dans une société qui n'est plus du tout la même, ça n'a pas de sens.
D'accord, mais je reviens à ma question, Roger Carucci. Vous aviez fondé un rassemblement gaulliste au sein de l'UMP. Ça veut dire qu'au sein de cette famille, vous avez l'air de dire tout le monde est à peu près gaulliste, il y en a qui le sont plus que d'autres. Et c'est peut-être pour souligner certaines idées plus importantes que vous vouliez défendre.
Il y a des éléments
lesquels
qui, à l'intérieur de l'UMP, si je l'avais fait en 2012, c'est parce que, je vous le rappelle, en 2012, l'UMP avait décidé, ça n'a pas duré, d'avoir des sensibilités et des votes de courant. Donc il fallait bien se rattacher à un courant, certains se rattachaient à un courant plus libéral, d'autres plus humaniste. Moi je considère que l'héritage gaulliste, si je puis me permettre, en dehors des institutions, c'est évidemment un sens de l'État, une notion de l'économie qui ne peut pas être que libérale, et où il y a par définition un rôle de l'État. Je ne suis pas spécialement colbertiste, mais je ne me sens pas non plus forcément libéral.
Andrew Knapp, bonjour.
Bonjour.
Je me tourne vers vous, quand on écoute Roger Carucci nous dire, en fait, il y a un certain nombre d'idées qui caractérisent le gaullisme après De Gaulle. Est-ce que vous avez l'impression que, en effet, il y a une sorte de filiation sur des idées très claires, ou est-ce que finalement, cet héritage gaulliste, il est très composite, il est récupéré par des catégories différentes selon des principes totalement différents les uns des autres et parfois incohérents. Est-ce que vous diriez l'une ou l'autre de ces hypothèses ?
Je pense que Jacques Chirac avait en quelque sorte raison dans la première partie de la déclaration que vous avez citée, c'est-à-dire que c'est que le gaullisme c'est quelque chose qui appartient à tous les Français. D'ailleurs, à la lecture de l'excellent livre de Sudhir Hazare-Singh, on voit à quel point les Français sont toujours attachés à l'héritage gaulliste. Il faut aussi souligner que le général de Gaulle n'a jamais accepté l'idée que le gaullisme soit soit de droite. Ce n'est pas la droite la France, a-t-il dit, et ce n'est pas la gauche la France.
Mais dans le même temps, on a le sentiment quand même qu'il y a une famille politique qui a particulièrement récupéré cet héritage,
oui,
même si c'est disséminé.
Tout à fait. Et qui fait référence plus que d'autres. Mais vous aviez raison au début, là. Personne ou presque parmi les candidats à la primaire évoque le gaullisme. Et on a du mal, par exemple, à imaginer un candidat aux primaires convier les Français à l'effort. Au nom du...
François Fillon le fait un peu avec un programme disant justement qu'il va falloir... Il dit pas du sang et des larmes, mais il a un programme assez austère, on va dire.
Mais chacun des candidats estime qu'il faut laisser filer un peu les déficits.
C'est pas faux. Ce n'est pas une idée très gaulliste, a priori.
Pas tout à fait. Cela dépend encore du contexte, mais de Gaulle savait être très très rigoriste en matière des dépenses budgétaires. Il faut se souvenir du plan Ruff Armand du début de la Ve République.
Alors, on va revenir un petit peu sur la question de l'électorat gaulliste. Andrew Knapp, on revient vers vous dans un instant. Je me tourne vers vous maintenant, Florence Hegel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une spécialiste du parti gaulliste, en tout cas le parti qui porte ce nom, parti néo-gaulliste plutôt, l'UMP devenu les Républicains. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les droites en fusion », paru aux presses de Sciences Po en 2012, Thomas Vider le rappelait tout à l'heure. Et vous vous êtes intéressé à l'électorat de ce parti. Est-ce que vous diriez que cet électorat, il est globalement, majoritairement gaulliste aujourd'hui?
D'abord, il faudrait définir la chose.
Est-ce qu'il se revendique comme tel?
Alors, moi, je voudrais dire que la définition de ce qu'est ou ce que n'est pas le gaullisme, c'est un enjeu de lutte politique, hein, depuis longtemps, au sein de la famille. Hein, c'est-à-dire que, en gros, depuis Georges Pompidou, hein, il y a ce débat, je dirais même cette lutte, cette concurrence, pour savoir qui est gaulliste, qui ne l'est pas, avec bien sûr des définitions différentes selon les personnes. Alors, s'agissant de l'électorat, on a eu tendance à dire que être gaulliste d'un point de vue électoral, c'est être rassembleur. C'est-à-dire,
définition minimale quand même.
Oui, c'est quand même celle qui est la plus utilisée, de dire voilà, un électorat gaulliste, c'est comme on disait le métro à 5 heures de l'après-midi. Et en réalité, quand on regarde les évolutions électorales, non seulement ça s'est transformé sous Pompidou, mais même plus précisément, ça s'est transformé à la fin de la période du général de Gaulle. Cette assise populaire du gaullisme.
C'est-à-dire pour devenir un électorat plus conservateur, qui est toujours celui d'aujourd'hui de la droite française,
c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est exactement ça que je veux dire. C'est-à-dire que il y a eu un moment où il y a eu vraiment un rassemblement très large au début de la Ve République, et puis ça s'est vite étiolé. Et ça s'est vite recentré sur un rassemblement plus conservateur, c'est-à-dire avec moins de classes populaires, moins d'ouvriers, plus de personnes âgées, par exemple. Et ça le reste. Hein. Donc, je crois que c'est ça le point important.
Je disais tout à l'heure, Roger Carucci, que vous avez participé à l'aventure du RPR depuis le début des années 1980. Et vous êtes aussi professeur d'histoire, donc vous intéressez aux évolutions. Quels souvenirs vous gardez dans les années 80 de la place du général de Gaulle, notamment pour quelqu'un comme Jacques Chirac? C'était une référence. On n'a pas trouvé énormément de sons dans les archives de Chirac se revendiquant de De Gaulle. On était un peu surpris.
Non, parce que d'abord, Jacques Chirac avait personnellement, d'ailleurs, une ancienne tradition radicale du Sud-Ouest. Et on est très vite passé, je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre, tout à fait passé du côté de Gaulle, héritier de la guerre, créateur de la Ve République, à un de Gaulle plus rassembleur de la droite que de l'ensemble. À la fin, les élections de 68 sont des élections où elles sont un peu plus marquées à droite. Alors, dans les années 80, reste la symbolique. Le sigle du RPR, c'est une croix de Lorraine stylisée. Cette symbolique a disparu. Pourquoi ? Parce que lorsque, par exemple, on a créé l'UMP, on a dit c'est maintenant le rassemblement de la droite et du centre, des gaullistes et des libéraux. Donc, sur le coup, la croix de Lorraine sort du jeu. Et c'est vrai que plus vous dites on veut une grande famille politique qui rassemble la droite et le centre, moins vous faites référence au gaullisme en tant que tel.
Florence Hegel, justement, pour rebondir sur ce que dit Roger Carucci, quand on regarde votre livre « Les droites en fusion », vous avez fait une analyse un peu du congrès fondateur de l'UMP en 2004 et vous montrez bien d'ailleurs que les gaullistes sont minoritaires.
En tous les cas, les emblèmes gaullistes disparaissent totalement. Hein. On parle plus de compagnons, il n'y a plus de croix de Lorraine, il n'y a plus de résistants. Mais c'est aussi que le groupe des gaullistes originaires a vieilli, a disparu, et que c'est le renouvellement des générations.
Mais les militants eux-mêmes, hein, je me rappelle d'un tableau où vous disiez il n'y a finalement que 30% des militants qui se revendiquent gaullistes par rapport à ceux qui se revendiquent conservateurs ou libéraux ou souverainiste ou...
Oui, mais ça me semble un peu naturel, en réalité, avec le renouvellement générationnel, hein, et les expériences, les formations, les socialisations différentes de ces générations qui n'ont pas connu le gaullisme et qui peuvent avoir une référence, révérence, hein, c'est évident, c'est un peu totem, mais qui, pour qui ça ne veut pas dire grand-chose.
On a du mal à imaginer d'ailleurs un jeune militant un peu se dire gaulliste aujourd'hui, comme le faisait Nicolas Sarkozy au congrès de l'IDR il y a 30 ou 35 ans.
Ben oui, je pense qu'il peut le dire par filiation familiale. Hein. Souvent, on peut avoir des éléments de trajectoire familiale pour qui ça représente des choses. Mais
il y a quand même des jeunes qui se disent encore gaullistes et qui s'engagent. Moi, j'en vois. Qui sont très croix de Lorraine, très héritiers.
Vous en voyez vraiment ?
Ah oui, oui, oui. Oui, oui.
Et ça se manifeste
alors,
comment ?
Il n'y en a pas des milliers, hein, mais
il n'y a pas de milliers de jeunes non plus.
Non, je vous en prie.
Partis politiques en général.
Malheureusement, il y a moins de gens qui s'engagent, oui, c'est vrai. Même si je pense que, bon, il y en a quand même. Mais bon, moi, je vois bien ce qu'on veut essayer de dire, c'est-à-dire qui est encore gaulliste aujourd'hui. Mais De Gaulle était un pragmatique. Il n'avait pas le sentiment qu'il allait transmettre une idéologie pour l'éternité. Il voulait bâtir une France plus forte autour d'un État, de l'autorité de l'État, autour de la nation. Après tout, si ces thématiques, autorité de l'État, unité de la nation, solidarité au sens de la participation, de l'économie, si ces thématiques se retrouvent dans des formations politiques ou dans des créations nouvelles, c'est assez normal. De Gaulle est mort quand même, il y a maintenant 1970. Ans.
Donc, 1970.
Vous ne pouvez pas avoir uniquement la même chose.
Andrew Knapp, quand vous entendez Roger Karoutchi, Florence Hegel nous parler de l'héritage du gaullisme, et que vous qui observez la vie politique depuis la Grande-Bretagne, mais vous êtes un fin connaisseur de la droite française, est-ce que vous diriez aujourd'hui que le gaullisme participe encore de la philosophie politique de la droite lorsque vous regardez les primaires? Vous avez l'impression encore que ça veut dire quelque chose ou c'est complètement une référence désuète?
Remarquez d'abord que les primaires sont, à mon avis, absolument contraires à l'esprit du gaullisme. Au cœur des institutions de la Ve République, dans la conception du gaullisme, c'est la rencontre au niveau de l'élection présidentielle entre un homme, je dirais un homme, parce qu'à l'époque on envisageait guère des femmes candidates, mais on pourrait dire un homme et une femme, et le pays, et sans l'intermédiaire des partis. De Gaulle, c'est bien connu, il détestait les partis, il n'avait pas une très grande estime pour le sien même. Je me souviens d'une conversation avec Alain Perfit, qui a été d'ailleurs un peu reproduit dans son livre, où il m'a dit « De Gaulle et moi, nous avions pensé, et on avait tous les deux tort, qu'une telle rencontre entre un homme et l'État, sans l'intermédiaire des partis, était possible.
Ouais. »
Et en fait, en installant l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962, De Gaulle n'a pas fait autrement que donner un énorme champ d'action nouveau aux partis politiques. Ce n'était pas son intention, mais il a commencé cet engrenage qui aboutit à nos jours à la nomination d'un candidat par un parti qui, je répète, est absolument contraire à l'esprit gaullien de la fonction présidentielle. D'ailleurs, il n'y a peut-être que Monsieur Gaynaud qui reste fidèle à cet esprit en s'écartant du primaire, mais je crois qu'il a été écarté plutôt que de s'écarter lui-même.
Ça a l'air de faire rire Roger Karoutchi qui approuve
oui,
ce que vous dites.
J'entends bien ce qui est dit sur la primaire, mais pardon, à ce compte-là, c'était pas mieux quand c'était le parti ou le conseil national du parti qui désignait le candidat.
Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites sur les primaires et sont-elles gaullistes ou pas, parce que c'est un vieux débat à droite. On a retrouvé une intervention de Charles Pasqua en 1989. C'était le 6 juin 1989 sur France Inter et le journaliste Roger Jiquel lui disait, alors même que l'ancien ministre de l'Intérieur qu'il était défendait le principe des primaires, il lui disait, mais monsieur Pasqua, est-ce que les primaires ne sont pas anti-gaulliste précisément. Voici ce que répondait Charles Pasqua.
Ce qui est contraire à la philosophie gaulliste de l'élection présidentielle, c'est de voir les partis choisir les candidats. C'est effectivement aux Français à choisir les candidats. Et donc notre démarche se rapproche beaucoup plus de la pensée du fondateur de la Ve République que ce qui se passe actuellement. Puisque nous, nous disons, de même que De Gaulle avait dit « c'est vous qui choisirez le président de la République », nous, nous disons aux électeurs, c'est vous qui choisirez le candidat.
Et Henri Guénaud, justement, que vous citiez à l'instant les uns et les autres, lui, il y a 3 ans, en 2013, disait l'inverse de Charles Pasqua. On écoute Henri Guénaud.
Je reste opposé à cette, par principe aux primaires qui enferment le candidat au présidentiel dans son camp. Et c'est, qu'on le veuille ou non, une trahison de l'esprit de la Ve République.
Alors Florence Hegel, quand on écoute Pasqua et Guénaud, qui a raison ? Est-ce que finalement les primaires sont la négation de l'esprit du gaullisme ? Oui, il faut avoir une vision plus générale, plus ouverte de cet esprit et dire que finalement elles sont compatibles avec ce que voulait le gaullisme pour la France.
Moi, je pense qu'il faut surtout être réaliste. Ça fait longtemps que les partis politiques sont à la manœuvre pour la désignation des candidats à l'élection présidentielle, bien avant les primaires. Donc, Dès qu'on considère qu'il faut qu'il y ait un soutien d'un parti politique à un candidat, alors au début on était prudent, hein, au RPR, on parlait pas d'investiture parce que justement il restait cette volonté de dire c'est un lien direct avec le peuple, mais c'était une question de terminologie. En réalité, c'était des personnes qui étaient issues du parti pour l'essentiel, et c'est vrai pour la droite comme pour la gauche. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi pas élargir l'assise ? Est-ce que c'est vraiment un pas qui est vraiment plus anti-gaulliste ? Non, peut-être pas. C'est peut-être quand ça restait entre les mains de dirigeants, de cadres, d'une élite partisane, que ça a échappé aux sympathisants, si on veut les appeler comme ça, qu'on était encore plus éloigné du gaullisme. Donc moi, je ne rentrerai pas dans cette bataille. Et je pense que, le mal est fait depuis longtemps, quoi.
Roger Carucci, un mot là-dessus. Je suis entièrement d'accord. En 81, en 88, en 95, le RPR apporte son soutien à la candidature de Jacques Chirac. En quoi le fait que, à la limite, le parti apporte son soutien, c'est plus gaulliste que le fait de dire à des millions d'électeurs de droite, allez donc voter et choisir votre candidat. Je crois pas, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a 40 millions d'électeurs, il faut faire campagne. On sait qu'une campagne présidentielle, ça n'est malheureusement pas juste 3 passages télé. Donc il faut bien une formation, il faut bien un parti. Et quand vous êtes un candidat hors parti, vous n'avez pas les structures, on l'a vu à toutes les élections présidentielles.
Et comment vous expliquez, Roger Carucci, que finalement, dans cette primaire, personne ne fasse plus vraiment référence au général de Gaulle? On l'a dit, à part Henri Guénaud, bien sûr, mais qui a dit que c'est pour ça qu'il ne voulait pas participer aux primaires, ni même y voter, puisque c'était incompatible avec l'esprit insufflé par le général de Gaulle. Mais comment vous expliquez que, dans ce parti, dont toute l'histoire est structurée quand même par une réaction à l'héritage gaulliste, eh bien, plus personne, aucun des candidats n'a fait de déclaration cette primaire qui bat son plein sur le gaullisme?
Ils vont le faire un peu plus sur la deuxième partie de la campagne. Le vrai sujet, c'est que quand vous ouvrez, ça n'est pas votre parti qui vote, c'est il va y avoir des Français qui n'ont pas forcément ni d'ailleurs de convictions gaullistes, qui peuvent être des centristes,
ils sont sympathisants de droite, quand même.
Des libéraux. Oui, mais les sympathisants de droite ne sont pas tous gaullistes, ça se saurait. Vous adressez à un électorat beaucoup plus large que ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, culturellement, philosophiquement, se rattacher au gaullisme. En revanche, je pense que dès qu'on va rentrer sur de vrais débats sur la nation, sur l'autorité de l'État, la référence au général de Gaulle se fera. C'est plus difficile en début de campagne. Vous verrez que dans la deuxième partie de campagne, ce sera plus systématique.
Florence Hegel.
Et moi, je voudrais rappeler aussi que cette référence au gaullisme est... Elle a déjà disparu depuis un certain temps. Ou en tout cas, elle apparaît par cycle. Moi, j'avais un petit peu regardé, vous posiez tout à l'heure la question du rapport de Jacques Chirac au gaullisme. Bon, tout le monde le sait, Jacques Chirac, il a parlé de travaillisme à la française dans le discours des Gletons. Il a parlé en 77 d'une famille nationale populaire. Il a tourné vers plutôt le libéralisme en 1981. Donc, il y avait déjà des fluctuations, des allées. Alors, ce qui m'a semblé important, c'est qu'à partir de la fin des années 80, à cette époque, dans la concurrence avec le Front National, on voit ressurgir l'identité gaulliste comme une manière d'antidote, en fait, à dire on est différent puisqu'on est gaulliste. Pasqua a beaucoup joué sur ce registre et je pense qu'il faut analyser ces allées et venues, ces disparitions et ces de la référence gaulliste en fonction de la compétition politique de qui on doit se démarquer.
Alors on le voit aujourd'hui d'ailleurs très bien parce que l'émergence du Front National ou aujourd'hui l'assise qu'a le Front National sur la scène politique oblige aussi à cette nouvelle référence au gaullisme et on voit bien de la part de Florian Philippot par exemple qui est le vice-président du Front National une volonté aujourd'hui de revendiquer l'héritage gaulliste. On écoute Florian Philippot, c'était le 11 décembre 2015, il était l'invité du talk du Figaro.
Pour moi, nous sommes aujourd'hui un parti clairement gaulliste, dans le sens où nous défendons...
Le Front National est un parti gaulliste.
Nous défendons clairement le projet pour la France du général de Gaulle, c'est-à-dire l'indépendance nationale, la grandeur de la France et un pacte social beaucoup plus affirmé. Honnêtement, je ne suis pas certain que le général de Gaulle serait très favorable à la mise sous tutelle de la France par des autorités non élues, la Troïka, l'Union européenne, le FMI. Il ne serait pas favorable au retour dans le commandement intégré de l'OTAN qu'il avait lui-même quitté, c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Pourtant, bref, quand l'UMP se déclare encore l'indécence de se déclarer gaulliste, ça me fait bondir parce qu'on ne peut pas trahir méthodiquement la politique, une politique qu'on prétend ensuite incarner. Ça, c'est du mensonge vis-à-vis des électeurs. Mais moi, je suis gaulliste et je ne m'en cache pas et j'en suis très fier.
France Culture, l'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Thomas Vider.
Andrew Knapp, on vient d'entendre Florian Philippot. Vu de Grande-Bretagne, pour un spécialiste comme vous de la droite française, est-ce que vous ne trouvez pas que peut-être Florian Philippot a raison, que si on observe la question de l'indépendance nationale, du rapport à l'État, de l'hostilité au libéralisme, eh ben, après tout, pourquoi pas, peut-être le Front National, c'est le parti le plus gaulliste, en tout cas, plus gaulliste que les Républicains. Vous seriez d'accord avec cette idée-là?
Il faudrait quand même souligner que l'héritage, l'ascendance du Front National plutôt, c'est profondément anti-gaulliste. Et je reviens sur ce que disait Florence Hegel tout à l'heure, que les gaullistes avaient raison de souligner que les origines du Front National se puisaient dans l'extrême droite vichiste, une extrême droite aussi Algérie française qui a quand même essayé d'assassiner le général de Gaulle.
Mais ça, c'est le passé aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, si on prend par exemple le cas de la question de la politique monétaire, de l'euro, je suis assez persuadé que le général de Gaulle n'aurait pas ne serait pas entré fait entrer la France dans l'euro. Par contre, et je crois que Roger Karoutri a souligné tout à l'heure que le gaullisme c'est aussi un pragmatisme, c'est-à-dire il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Or un gaulliste confronté avec la réalité d'aujourd'hui où la France est bien dans l'euro serait bien avisé de peser les pour et les contre de la sortie de l'euro. Parce qu'on y est maintenant. Et les résultats d'une sortie seraient vraisemblablement assez catastrophiques et je ne suis pas certain qu'il est plus gaulliste de sortir la France de l'euro ou d'ailleurs carrément de l'Union européenne que d'y rester parce que les gaullistes prennent les faits tels qu'ils sont sur le terrain.
Roger Karoutchi, par rapport d'abord avant de parler de l'euro et de l'Europe parce que c'est évidemment très très central, ce que disait Florian Philippot est quand même cette captation d'héritage, en tout cas cette revendication qu'a le Front National aujourd'hui, contrairement à ce que pourrait laisser penser son histoire, cette revendication de l'héritage gaulliste, est-ce que ça pose pas quand même des questions à un mouvement comme le vôtre sur son positionnement réel aujourd'hui et quelle est votre identité politique, quelle est l'identité politique des Républicains?
La simple appellation Les Républicains pour y répondre. Moi, je comprends très bien la manœuvre chez Florian Philippot, qui a été chevènementiste, qui ensuite se revendique du gaullisme, parce que c'est un bon moyen de légitimer, républicaniser sa formation politique. Et son arrivée n'ayant pas été très simple au Front National, il faut bien qu'il donne un peu le sentiment d'apporter une image un peu différente. Moi, je pense qu'effectivement, sur bien des sujets historiques, la création du Front National est une création anti-gaulliste. C'est comme ça, Jean-Marie Le Pen, franchement, ne risque pas de se revendiquer du gaullisme. Le fait même du positionnement du Front National, qui est par exemple extraordinairement opposé à l'axe franco-allemand, qui passe son temps à critiquer le rapprochement franco-allemand. Or, ce rapprochement franco-allemand, cet axe franco-allemand, c'est l'une des volontés fortes du général de Gaulle avec Konrad Adenauer. Donc, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau de la légitimation, oui, c'est normal que le Front National veuille se donner une image un peu plus ouverte, mais ça ne correspond pas à la réalité, ni historique, ni politique.
Florence Hegel, en même temps, sans vouloir s'opposer à ce que dit Roger Carocci, on a l'impression que c'est plus qu'une petite référence, que la référence au général de Gaulle au Front National devient de plus en plus prégnante. Hein. Il n'y a pas seulement Florent Philippot, Marine Le Pen s'en fait l'écho également. Est-ce que vous diriez que c'est un rapt absolu, ou est-ce que finalement c'est une mobilité du FN vers une culture plus gaulliste?
Moi, je crois que c'est surtout une belle preuve de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'instrumentalisation de la référence gaulliste par tout le monde. On a dit qu'il y a eu une sorte de patrimonialisation du gaullisme, et le résultat, c'est que tous les partis politiques peuvent maintenant utiliser cette référence dans le cadre d'une compétition politique. C'est-à-dire que je crois que c'est vraiment un instrument. Donc moi, je ne dirais pas le Front National est devenu ou est gaulliste. Je dirais il utilise cette référence comme d'autres ont pu l'utiliser, et il l'utilise parce que aussi de l'autre côté, les Républicains ont aussi capté, il y a ce double mouvement, certaines références du Front National. Donc, il joue sur cette porosité également. Mais c'est les deux protagonistes ont emprunté aux autres.
On a l'impression que dans la culture politique de la droite, il y a quand même un vrai changement par rapport à ce qu'a pu incarner le gaullisme. Et ce changement, il est par rapport à l'État et à l'économie de marché. On sait que le gaullisme est un mouvement statocentré, orienté autour de l'État, très critique du libéralisme. Et en même temps, Roger Carocci, Florence Hegel, Landau Knapp, on entend aujourd'hui les candidats aux primaires, tous se revendiquent libéraux. Il y a même une surenchère au libéralisme, dans le cas de François Fillon, par exemple. Mais en tout cas, on défend l'autorité de l'État, mais sur l'économie de marché, il n'y a plus aucune ambiguïté,
Roger Carocci. Dans le programme de Nicolas Sarkozy, puisque je soutiens Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de tout libéral dans l'économie. Il y a, dans le programme lui-même, encore bien des sujets qui restent de la compétence et de l'autorité de l'État. Moi, je considère que, naturellement, qu'est-ce que vous voulez faire ? Les économies des années 2016 ne sont évidemment pas les économies des années 60, qui pouvaient être encore des économies repliées, très nationales. Aujourd'hui, l'internationalisation, la mondialisation change la donne. Vous pouvez pas ne dire que on va faire une économie administrée ou d'État. Donc, une évolution vers plus de libéralisme, vers plus d'initiative, elle est normale. Mais, dans mon appréciation, il faut conserver le rôle de l'État.
Andrew Knapp, vous êtes toujours avec nous au téléphone. Florence Hegel disait à l'instant qu'il y avait des mobilités réciproques, avec peut-être un emprunt au gaullisme, par exemple au Front National, mais également à l'intérieur des Républicains, des emprunts à une autre culture qui n'est pas forcément gaulliste, une culture d'extrême droite en particulier, sur certains thèmes, on pense aux certains thèmes identitaires peut-être aujourd'hui. Est-ce que vous voyez aussi les choses de la même façon?
Il y a eu à certaines époques une certaine porosité entre gaullisme et extrême droite. Je pense par exemple à l'époque 1947-53, l'époque du Rassemblement du peuple français, où ce mouvement indéniablement gaulliste a attiré de nombreuses personnalités plutôt proches de l'extrême droite. Et d'ailleurs, à cette époque, je crois que de Gaulle prônait une plus grande libéralisation de l'économie à l'époque. On peut aussi citer l'après 68, où de Gaulle a amnistié certains officiers factieux de l'époque OAS, et où l'extrême droite a rejoint en quelque sorte les rangs des gaullistes, dans le mouvement opposé à mai 68. Pour revenir à l'actualité, oui, en effet, quand j'entends certains discours de Nicolas Sarkozy, j'ai l'impression qu'il double ou presque un Front National devenu, selon les apparences au moins, plus modéré. Mais là aussi, il faut faire un peu attention. Vous avez cité au début de l'émission Nadine Morano, qui elle citait le général de Gaulle, qui évoquait une France et une identité de la France.
Autour de la race blanche, oui, c'était ça le terme utilisé.
De race blanche, de culture gréco-romaine et de religion catholique. Ça ressemble aujourd'hui un peu plus au discours du Front National qu'au discours des Républicains.
Oui, Florence Hegel, quand on entend Andrew Knapp nous parler de cette référence, on a l'impression qu'il y a toute une montée, un peu que certains appellent néo-réac, on va le dire pour le dire un peu schématiquement, qui n'est pas du tout gaulliste d'une certaine manière. Dans les rangs de Valeurs Actuelles, de certaines signatures du Figaro Magazine, Éric Zemmour, Ménard, et même une partie de Nicolas Sarkozy, dans le discours de Nicolas Sarkozy, on est plutôt dans le triomphe de ceux qui détestaient De Gaulle d'une certaine manière, et aujourd'hui ils se servent d'un De Gaulle pour légitimer leurs idées qui sont assez éloignées de celles du général, non ?
Oui, je pense qu'il y a un mouvement qu'on peut, je ne suis pas totalement fan du terme, mais parler de néoconservateur en référence aux États-Unis, il y a ce mouvement qu'on voit très nettement prendre sa place, je trouve, en France, qu'on a vu aussi avec la mobilisation pour la manif pour tous, hein, autour de la question religieuse. Hein. Donc ça, c'est relativement quand même nouveau dans le paysage de la droite française. Et je pense que, en effet, c'est pas dans la filiation gaulliste, parce que même si c'est une question de... Le gaullisme est un nationalisme, le gaullisme est un nationalisme assez inclusif, en réalité, et que là, on est plutôt, quelquefois, sur des nationalismes exclusifs. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la différence maintenant. Maintenant, cette porosité, elle a existé historiquement, Andrew Knapp l'a rappelé, elle a existé aussi très fortement, on l'oublie quelquefois, à la fin des années 70 et le début des années 80, avec le Club de l'Horloge, avec des gens qui étaient quand même...
un peu plus explicite pour
Le Club de l'Horloge, qui était donc un groupe d'énarques, qui a, par exemple, forgé le terme de préférence nationale, qui avait un discours très identitaire et qui était très investi dans les partis de droite classique de l'époque. Hein.
Et notamment au RPR.
Au RPR et au Parti Républicain. Jean-Yves Le Gallou était au Parti Républicain et Yvan Blot était au RPR. Et cette porosité était déjà présente au début des années 80. Donc on la voit à plusieurs étapes de l'histoire, c'est ça que je voulais dire.
Mais Roger Carucci, quand on revient sur cette question de l'actualité, quand on voit par exemple un Éric Zemmour qui peut citer le général de Gaulle pour défendre Nadine Morano, mais qui règle ses comptes avec finalement la question de l'Algérie française, qui est une question dont on sent, et on y consacrera probablement une émission dans les semaines à venir, qu'elle est encore au cœur de la vie politique française. Est-ce que vous diriez finalement, on assiste à droite au triomphe de ceux qui auraient détesté de Gaulle il y a 40 ans ?
Pas du tout. Pas du tout, et je crois qu'il faut simplement adapter et regarder les choses. De Gaulle était extrêmement fervent de la nation, extrêmement fervent de son idée de la nation. Le problème, c'est que naturellement, dans les années 60-70, la remise en cause de la nation, elle n'est pas en interne. Elle peut être dans la Deuxième Guerre mondiale contre les Allemands, elle peut être dans la décolonisation, mais elle n'est pas en interne. Si aujourd'hui, il y a plus d'affirmation de ce que doit être l'identité nationale, c'est pas que d'un coup d'un seul, les gens sont devenus des ultranationalistes. C'est que les remises en cause de la nation sont beaucoup plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans. Je ne suis pas sûr que De Gaulle aujourd'hui, existant aujourd'hui et au pouvoir aujourd'hui, ne dirait pas un certain nombre de choses qui se disent chez les Républicains ou ailleurs sur ce que doit être la nation aujourd'hui. Parce que les coups de boutoir contre la nation posent problème. Bon. Alors après, dire est-ce que ça veut dire que c'est de la porosité par rapport au Front National ou pas, je n'en sais rien. Je considère que là-dessus, c'est quand même extraordinairement compliqué.
défendre la nation, c'est pas forcément être nationaliste borné. Vous dites, De Gaulle, c'était un nationalisme inclusif. Oui, mais parce que on n'était pas du tout dans les mêmes conditions. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, quand on défend le fait que toute personne issue de quelque milieu que ce soit qui devient français doit respecter, intégrer l'histoire de France, c'est aussi inclusif.
Andrew Knapp, on entend Roger Carucci nous dire bah, finalement une porosité, mais les conditions sont différentes. Alors justement, dans les quelques minutes qui nous restent dans cette émission, on voulait vous poser la question de savoir si finalement cette référence au gaullisme elle a encore un sens. Est-ce que finalement, c'est pas même un obstacle pour inventer à droite une nouvelle modernité politique qui tienne compte du contexte de 2016 et non pas ressasser les mêmes vieilles histoires à longueur de journée? Qu'est-ce que vous en pensez?
De Gaulle lui-même inventait un certain nombre de récits qui sont peut-être des obstacles, des récits selon lesquels, par exemple, tous les Français ont été résistants, ou des récits selon lesquels la France a en quelque sorte octroyé son indépendance à l'Algérie. Et je pense que, d'une certaine manière, ces deux récits qui en quelque sorte surestime la capacité d'agir indépendamment de la France sont des obstacles à la création de mouvements politiques modernes. Je voulais juste aussi souligner...
Allez-y rapidement. Allez-y.
La diffusion du gaullisme à travers les formations politiques, il semblerait que l'expression de Hollande, l'identité de la France, c'est une idée, ce n'est pas seulement des racines, c'était formulé après une longue étude des mémoires de guerre du général de Gaulle.
Donc même à gauche, au Parti Socialiste, voilà, qui longtemps a été incarné par un François Mitterrand qui était le grand rival du général de Gaulle, l'héritier de Mitterrand, se revendique lui-même de l'héritage du gaullisme. Roger Carucci, ça vous fait sourire, le mot de la fin?
Je ne suis pas absolument convaincu que François Hollande soit gaulliste, parce que sur les questions d'autorité de l'État ou de la nation, on aurait quelques sujets.
Florence Hegel, dernière question peut-être sur l'héritage du général de Gaulle. On sait que dans la pensée du général de Gaulle, le mot de l'unité, du rassemblement, était extrêmement, extrêmement important et central. Quand vous voyez l'état de la droite française aujourd'hui, qui n'est que déchirement, querelles intestines, etc., est-ce que d'une certaine façon, ils ne sont pas tous de très mauvais héritiers du général de Gaulle par rapport à l'état de leur famille politique?
Oui, du point de vue de disons du discours du général de Gaulle, mais il faut aussi se rappeler que à l'époque du gaullisme, il y avait aussi des rivalités au sein des organisations. Il y a eu des rivalités autour de la guerre d'Algérie. Il y a eu au sein de l'UNR, il y a eu vraiment des rivalités.
Donc c'est très gaulliste. C'est très gaulliste.
Il ne faut pas mythifier l'histoire non plus de ces partis.
Vincent, vous vouliez nous dire un mot avant de nous quitter pour prolonger justement ce débat. Évidemment, quelques références comme avant chaque fin d'émission.
Quelques conseils de lecture. D'abord, rappeler les deux livres de nos invités. Le livre d'Andrew Knapp, Le gaullisme après De Gaulle, paru au Seuil en 1996, qui, comme son nom l'indique, propose une réflexion sur le destin du gaullisme comme mouvement d'idées qui a participé à la recomposition de la droite, entraînant une transformation du gaullisme dans son rapport, notamment au culte du chef, mais aussi à une certaine forme de notabilisation des membres des mouvements comme le RPR, par exemple. Bref, un mouvement gaulliste tiraillé entre fidélité et trahison de l'héritage. Et puis, le livre de Florence Hegel, Les droites en fusion, qui était vraiment le dernier ouvrage en France publié qui propose une étude de sociologie politique sur le principal parti de la droite, l'UMP, avant qu'il devienne républicain. Enquête exigeante, indispensable pour comprendre l'évolution contemporaine du parti à l'heure des primaires. Et puis, rapidement, en quelques secondes, deux livres très importants, deux ouvrages incontournables sur le général de Gaulle lui-même et son héritage. Bien sûr, le livre de Maurice Agulon, De Gaulle, histoire, symbole, mythe, paru chez Plon en 2000, une méditation personnelle du grand historien de la République sur le personnage de De Gaulle et l'imagerie, la symbolique qui entoure ce mythe. Et bien sûr, le livre de Sudhir Hazarezing évoqué par Andrew Knapp, Le mythe gaullien chez Gallimard en 2010, où il se dit, mais comment ça se fait que le général de Gaulle est devenu cette figure incontournable? Mais bon, on va lire ce livre pour le comprendre.
Les références de tous ces ouvrages, vous les trouvez sur notre page Facebook et également sur la page de l'émission sur le site de France Culture. C'est la fin de cet atelier du pouvoir, une émission de Vincent Martini et Thomas Vider, préparée par Antoine Dulster, réalisée par Vincent Abouchard, à la technique aujourd'hui, Pierrick Mancini. La semaine prochaine, on se retrouve, mon cher Vincent, et nous parlons de quoi?
Eh bien, nous parlerons de pourquoi déteste-t-on la politique.
C'est avec le philosophe philosophe Jacques Rancière et le politiste Daniel Gaxi qui seront avec nous à samedi prochain 12h45 sur France Culture.